qu'il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
L'échec de Napoléon.
La bataille touche à sa fin. Napoléon a oublié de mettre des piles dans son walkie-talkie. Il n'a pas pu communiquer avec Grouchy. C'est la raison de sa défaite.
Sire, vous êtes anxieux.
Oui, les choses ne se présentent pas très bien. Il y a surtout des problèmes de communication, des problèmes de distance, de troupes qui sont trop loin.
Vive l'empereur !
L'empereur est toujours une vedette. Pourtant, son Waterloo définitif a coûté la vie à 50 000 hommes.
Sait-on que c'est quasi tout de suite après l'événement que le champ de bataille est devenu un marché. S'il est un premier livre à recommander en cette période, c'est « La mort de Napoléon » de Simon Leys. Il imagine que l'empereur s'est échappé de Sainte-Hélène où il s'est fait remplacer par un sosie. Il débarque clandestinement à Anvers, il gagne Bruxelles, il voit des affiches « Visitez la morne plaine et à l'auberge de la grande armée, la chambre de l'empereur ». Il s'y rend donc en simple Pékin et ne reconnaît rien, surtout pas la chambre qu'on lui attribue. Heureusement, Edmond, un grognard du dernier carré, s'offre à lui faire une visite. Tournoyant sur sa béquille, il bave, vocifère en évoquant les morts et les blessés. Napoléon a soudain le sentiment de comprendre le vrai Waterloo qu'il n'a pas connu. Mais de retour à l'auberge où il n'a jamais couché, la servante lui certifie que le grognard guide est un simulateur. Lui-même, Napoléon, est porteur de faux papiers au nom d'un autre. Qui est-il? Nul ne le sait. À quel moment sommes-nous précisément? Trop tard, sire, lui disent ses derniers partisans. Ça, c'est la première lecture démystificatrice, le conte philosophique de Simon Leys. Et la seconde, qui évite aussi le piège du tourisme à Waterloo, c'est Napoléon Bonaparte, le noir génie de Gérard Grimbert.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Gérard Grimbert, ici présent, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît comme un excellent spécialiste de la vie politique du XXe siècle, mais qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Une colère rentrée?
Il y a de ça, il y a à la fois de la curiosité. Je me suis rendu compte que finalement, je ne comprenais pas bien Napoléon, je ne comprenais pas très bien le régime qui avait été le sien. Et puis aussi un peu d'agacement que tant de livres dressent uniquement des couronnes à Napoléon, que personnellement, et plus j'ai réfléchi et lu, je considérais plutôt comme un personnage négatif et antipathique que positif.
Oui, mais alors ce que vous avez lu, c'est quand même un peu spécifique. Je rappelle que votre livre, je ne l'ai pas dit, est publié au CNRS Éditions. Vous avez longtemps travaillé au CNRS. Ce que vous avez lu, vous, c'est les auteurs de la tradition, comment dire, libérale, Chateaubriand, Madame de Staël, Madame de Rémusat, dont on parlera en détail. C'est une niche dans le grand marché napoléonien.
Ben d'abord, si vous voulez, je pensais, pour moi, bien sûr j'ai lu les principaux auteurs, les historiens, mais je pensais qu'il était important pour comprendre Napoléon de le connaître à travers aussi ceux qui l'avaient bien connu, soit d'ailleurs qui l'avaient servi, soit qui l'avaient combattu, et ce qui a été écrit de plus intéressant l'a été en général par des auteurs libéraux, hein, et en particulier vous en parliez, que ce soit Madame de Staël, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Madame de Rémusat, des auteurs de ce type, et d'autant plus que mon angle d'attaque était quand même de mettre Napoléon au cœur du tableau, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est sur Napoléon lui-même.
Enfin, vous citez quand même de temps en temps le mémorial de Sainte-Hélène que Napoléon fait construire par Lascaz et qui nous explique que dans l'héritage de la Révolution, premier thème Gérard Grimbert, l'égalité est restée l'horizon d'attente de Napoléon, même si la liberté parfois était ébréchée.
Oui, enfin, l'égalité, vous savez, oui et non d'abord, parce que quand on regarde Napoléon lui-même, qui en même temps voulait au fond n'avoir que des individus en face de lui, s'est rendu compte qu'il avait besoin pour reconstruire sa société de reconstruire une aristocratie. Il ne faut pas oublier que, et cette aristocratie qu'il a peu à peu remis sur pied en essayant de fusionner l'ancienne et la noblesse d'empire, cette aristocratie, il faut bien voir que c'était souvent une aristocratie d'argent. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, jadis, j'avais regardé à l'école polytechnique, il n'était pas tellement pour donner des bourses et accueillir des enfants pauvres, parce que après ça ferait des gens qui ne seraient plus tout à fait heureux dans la vie parce qu'ils seraient frustrés. Donc l'égalité, alors évidemment on peut dire l'égalité dans le suffrage, mais comme il a rapidement arrêté de les faire voter, d'accord. Et puis enfin, vous le disiez à l'instant, c'est une égalité sans liberté.
Mais vous dites, il a arrêté de faire voter. Oui, enfin, quand même son régime a été établi sur le vote.
Oui.
Et moi, je me fais le porte-parole des historiens canoniques de Napoléon, qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Il me semble qu'il y avait un Parlement croupion, un Sénat, qu'il nomme, c'est vrai, mais enfin, qui a le pouvoir d'empêcher, nous disent les historiens canoniques, et un Conseil d'État qui étouffe un peu ces décisions, qui les atténue, qui les tempère, le Conseil d'État donnant le branle aux juges et à la jurisprudence.
Oui, alors d'abord, faux, Napoléon n'a cessé, jour après jour, de détruire tout ce qui restait du système représentatif et des assemblées. Elle n'avait, alors qu'il y avait des gens de qualité dans ces assemblées, mais on leur demandait simplement de dire oui, et surtout pas de discussion, parce que s'il y a une chose que Bonaparte détestait, c'était la discussion. Il aimait l'ordre, mais il n'aimait pas la discussion. Il aimait le vertical et pas l'horizontal. Donc par conséquent, il est faux de dire qu'il y a eu un système représentatif. Au contraire, et vous parliez du Conseil d'État, au contraire, il a construit l'État contre les institutions représentatives, et le Conseil d'État, c'était bien un Conseil d'État. Et c'est lui d'ailleurs, et d'ailleurs, il faut bien voir que plus le temps passait, moins il l'écoutait, et plus c'était un organe d'exécution. Ce qui n'était pas le cas avant l'Empire.
Allez, petite pause, allons au théâtre. On va entendre des auteurs classiques dans la première partie de cette émission Le Théâtre, dont le surintendant à partir de 1807 est Monsieur de Rémusat, le mari de la dame dont on parlera tout à l'heure. Napoléon adore cette tirade que vous allez reconnaître puisque vous la citez.
Cette liberté qui lui semble si chère n'est pour Rome, Seigneur, qu'un bien imaginaire, plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas de celui qu'un bon prince apporte à ses états. Avec ordre et raison, les honneurs il dispense, avec discernement punit et récompense, et dispose de tout en juste possesseur sans rien précipiter, de peur d'un successeur. Mais quand le peuple est maître, on agit qu'en tumulte. La voix de la raison jamais ne se consulte. Les honneurs sont vendus aux plus ambitieux. L'autorité livrée aux plus séditieux. Ces petits souverains qu'il fait pour une année, voyant d'un temps si court leur puissance bornée, des plus heureux desseins font avorter le fruit de peur de le laisser à celui qui les suit. Comme ils ont peu de part au bien dont ils ordonnent, dans le champ du public largement ils moissonnent, assurés que chacun leur pardonne aisément, espérant à son tour un pareil traitement. Le pire des États, c'est l'État populaire.
Le pire des États, c'est l'État populaire. Sinna, Corneille, il n'y a pas d'autre solution que de louer les Chateaubriands et que d'applaudir. Corneille, s'il était encore vivant, j'en aurais fait mon premier ministre, dit Napoléon.
Exactement, il dit ça. Il adorait Corneille aussi parce qu'il estimait que Corneille avait légitimé et compris la raison d'État. Au fond, ça le plaisait beaucoup. Effectivement, vous venez de le dire, il n'aimait pas l'État populaire. Il avait dit effectivement ça. Et par contre, on voit bien qu'il avait une bête noire, c'est Tacite. Parce que Tacite avait critiqué les Césars et qu'il détestait qu'on critique les Césars. D'ailleurs, lui-même, de temps en temps, à un moment, disait « Mon gouvernement, c'est celui de Dioclétien ». C'est-à-dire qu'il s'identifiait beaucoup à l'Antiquité et en particulier aux empereurs romains.
Dites-moi, on rigolait pas beaucoup dans les théâtres dont Monsieur de Rémusat était le surintendant. Ça commençait la séance théâtrale, il n'y avait plus que 8 théâtres qui fonctionnaient, par la lecture des bulletins de la Grande Armée qui racontaient les victoires de l'empereur.
Exactement, absolument, il y avait ça. Et puis surtout, la police contrôlait complètement les théâtres, puisque dès que le public riait à quelque chose qui pouvait sembler être involontairement ou volontairement de la part de l'auteur, souvent d'ailleurs involontairement, quelque chose qui pourrait avoir à faire avec une critique du régime napoléonien, on fermait la salle, on arrêtait, quelquefois on exilait même celui qui avait écrit la pièce. Non, il n'y avait aucune liberté.
Dites-moi, il y a quand même son tempérament qui joue peut-être pour, parce qu'il garde un imaginaire républicain, tempérer les choses. Un autre que lui eût été un tyran, dit Thierry Lenz, historien canonique, super canonique de Napoléon. Donc vous nous parliez de la psychologie de Napoléon telle que vous l'envisagez.
Oui, non, moi je suis pas, enfin j'apprécie beaucoup des choses qu'ont fait Thierry Lenz, mais enfin je suis en désaccord avec lui sur ce point. C'était bien un tyran. D'ailleurs, en fait, quand on lit le mémorial de Sainte-Hélène, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Napoléon n'a aucun souci, aucune difficulté à dire j'ai été un dictateur et j'ai voulu être un dictateur. Donc là-dessus, il s'en est jamais, jamais caché. Je suis un dictateur, donc non, on ne peut pas dire qu'il n'était pas un tyran. Il était un tyran. Alors certains diront peut-être un tyran débonnaire, parce que les gens qui l'ont bien connu disent que autant il était dur, raide et impitoyable dans sa volonté de dominer et de diriger l'État, autant dans le privé, il pouvait être au fond assez généreux, assez, il pouvait être assez même, comment dire, il supportait assez bien les faiblesses humaines, il pouvait comprendre. Donc voilà, il y avait sûrement peut-être deux Napoléons, mais le Napoléon qui moi m'intéresse, le Napoléon politique, celui qui dirige l'État, était certainement tyrannique. En tout cas, et je dirais même de plus en plus tyrannique au fur et à mesure qu'on s'orientait vers le désastre.
Madame de Rémusat, l'épouse du précédent. Ah, il faut que vous nous disiez un mot de Madame de Rémusat parce que c'est une de vos lectures préférées.
Oui, d'abord oui, j'ai lu ces trois tomes de ses mémoires qui sont magnifiques. Et Madame de Rémusat était donc à la cour de l'empereur. Et en fait, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle fait partie de tous ces gens qui ont été sincèrement, sincèrement heureux d'accueillir Napoléon, de travailler avec lui, parce qu'elle disait au fond, après 10 ans, ce qui s'était passé, on était quand même très content de retrouver une certaine sécurité, une certaine tranquillité. Donc voilà. Et peu à peu, elle fait partie de ces gens, et elle le montre parfaitement, qui, peu à peu, ressentent un malaise. Et un malaise croissant, ils se disent, mais c'est pas la France qui l'intéresse, c'est lui-même. Et qui voit que peu à peu, il va les emmener dans une direction où peu à peu, et ça me paraît très important pour expliquer l'une des composantes de la déposition, si je peux dire, de 1814, la première, c'est que peu à peu, une grande partie des gens qui ont servi l'empereur vont avoir de plus en plus mauvaise conscience de l'avoir fait.
Il eût voulu être le soleil et que le soleil eût autant de rayons que de sujets, afin qu'il ne se touchasse qu'en lui, les sujet.
Exactement.
C'est le style de Madame de Rémusat. Vous dites, il n'arrive pas à s'arrêter à certains moments. 1805, la paix de Presbourg. 1807, la bataille indécise d'Eylau. Il aurait pu s'arrêter, mais il y a la guerre d'Espagne et le début de la campagne de Russie, ce grand rêve. Alors, je vais vous faire entendre un grand auteur de théâtre encore, plus tardif, c'est Claudel. Je n'ai pas lu L'Otage de Claudel depuis 50 ans.
Voilà, Rimbert, exactement. Mais... J'ai un peu oublié.
Souvenez-vous, le pape Pie VII est prisonnier de l'empereur. Je dis souvenez-vous, mais les Français ne savent pas que le pape Pie VII a été prisonnier de l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah ben, il s'est passé, c'est tout ça, c'est à cause en fait de l'affaire de relations internationales. Au fond, c'est le blocus. Le blocus. Napoléon voulait absolument que Rome, comme ailleurs, toute l'Europe applique le blocus. Les Anglais étaient assez présents à Rome. Je vous passe les détails, mais à un moment donné, Napoléon a voulu rentrer dans Rome, a conquis les États pontificaux, et à partir de là, la crise s'est ouverte, qui était à la fois une crise religieuse, une crise politique, et où il a très mal mené ce pauvre vieux Pie VII, puisqu'il l'a amené dans, il l'a amené d'abord à Savone, il l'a amené ensuite à Fontainebleau, et sous pression. Donc, voilà.
Fontainebleau. Il y a une expo actuellement, Pie VII et Napoléon à Fontainebleau, où on restitue avec exactitude l'appartement du pape. Je reviens à Claudel, c'est pas l'exactitude qui le caractérise, Claudel. Vous allez entendre le pape. C'est Jean Villard, et il est face à un individu qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Louis Arbessier, et qui vient de l'enlever.
Un panneau de la bibliothèque s'écarte, découvrant l'ouverture d'une porte secrète. Entre un vieillard en soutane noire, la tête coiffée d'une calotte blanche.
Mon fils, que la paix soit avec vous.
Saint-Père, mangez et buvez, car la route a été longue et rude jusqu'ici, et votre repos court jusqu'à cette messe matinale.
Quel est ce pain que vous voulez me donner à manger?
Un pain de loyale farine, une maison chrétienne vous habite. Et je suis le vicomte Ulysse Agénor Georges de Coufontaine et d'Ormand, lieutenant du roi Louis en France pour Champagne et Lorraine.
Quel est cet acte violent? Pourquoi m'avez-vous enlevé de ma prison?
Ordre signé de l'empereur. C'est moi qui me suis chargé de l'exécuter, le porteur se trouvant empêché. La chose a été faite comme il faut. Moscou est loin. Et qui n'honorerait une telle signature? Une vraie traite en blanc sur tout l'Empire. Ils m'ont tous obéi comme à un ange du ciel. Ainsi, à moi tout seul, j'ai tiré Pierre de sa prison.
La fiction, c'est formidable, parce qu'il a raison, en fait, dans son imagination, Claudel. Moscou est loin, l'empereur est en Russie, ça se passe très mal pour moi. Qui contesterait les papiers que je montre, dit Coufontaine? Eh ben, il parle exactement comme le général Mallet, l'automne 1812. C'est important, la conspiration du général Mallet.
Oui, c'est
ce pauvre général Mallet qui n'est pas grand-chose et qui montre de faux papiers et qui manque d'emporter l'adhésion de beaucoup des notables de l'Empire pendant que l'Empereur est en Russie.
Oui, il a même, je crois qu'il a même réussi lui-même à mettre en prison le ministre de l'Intérieur. Oui. Non, mais en fait, ça montre deux choses, la conspiration du général Mallet. Et vous dites effectivement, pendant la campagne de Russie, la première, c'est quand Napoléon n'était pas là, on ne savait plus très bien qui dirigeait l'État, parce que tout reposait sur lui. Et la deuxième, c'est que finalement, comme il avait échoué, et c'est un de ses grands échecs, comme il avait échoué à fonder un vrai régime qui pourrait fonctionner normalement, éventuellement sans lui, et qui pourrait lui succéder, eh bien, il y avait un problème de légitimité. D'ailleurs, il a toujours essayé d'augmenter sa propre légitimité. Il n'a pas réussi de ce point de vue-là, parce qu'au fond, sa légitimité, elle ne tenait qu'à lui, mais il n'a pas pu la transmettre à un régime politique, si je peux dire. Et donc, effectivement, elle a montré au moment... Alors, évidemment, c'était un moment tragique de l'histoire napoléonienne, mais elle a montré que ce régime qui paraissait si établi, si solide, si fort, était en fait extrêmement fragile.
Personne n'avait pensé pratiquement que le roi de Rome, l'enfant de Marie-Louise et de Napoléon, pourrait lui succéder en cas d'empêchement, ce qui fait que dès novembre 1812, Napoléon rentre tard, abandonnant là la grande armée ou ce qui en reste en Russie.
C'est nous, sire, et c'est vous. Vous êtes là, enfin.
Messieurs, la première charge du roi de Rome. Et comme vous le voyez, il a décidé d'attaquer les hauteurs comme je l'ai fait à Austerlitz.
Hélas, sire, nous sommes loin d'Austerlitz. La déroute de nos armées...
Pas la déroute, monsieur. Une retraite.
Sans doute, sire. Mais des milliers d'hommes sont encore en Russie. Sans vous, que pourront-ils espérer ?
Je suis rentré au plus vite, parce que les affaires de la France l'exigeaient. J'ai laissé Murat à la tête de nos troupes et je le connais. Il sauvera ce qui peut l'être.
Te souviens-tu de ces plaines glacées que les Français abordaient en vainqueurs ? Et sur leur front, ces neiges amassées glaçaient leur corps sans refroidir leur cœur. Souvent alors, au milieu des alarmes, nos pleurs coulaient, mais notre œil abattu brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie vivant encore descendit au cercueil, et que l'on vit dans lutesse flétrie les étrangers marcher avec orgueil, gardant ton cœur ce jour pour le maudire, gardant ton cœur ces voix qui se sont tues, qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu, qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu.
L'échec de Napoléon, les dernières années, dans cette chanson due à un goguetier, animateur du caveau, Émile Debrot, on évoque la période qui va de la campagne de Russie qui échoue à la campagne de France. Lutèce va bientôt être occupée par les ennemis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une interprétation par les Sirards. Et que Gérard Grimbert, vous qui publiez Napoléon Bonaparte, le noir génie aux éditions du CNRS, vous êtes tout à fait intéressé par ce désir qu'ont les Français, ici il est exprimé par les Sirards, d'avoir des grands hommes à célébrer. Plus il y a de division entre les Français, plus il faut de grands hommes.
Oui, d'ailleurs, ce grand homme a effectivement été accueilli, il faut bien le reconnaître, quand même assez largement, au moment du 18 Brumaire. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'Empire s'écoule, que le règne de Napoléon s'écoule, franchement, les enthousiasmes se refroidissent nettement. Et vous voyez, par exemple, on parlait là de la campagne de Russie. Il faut bien voir la campagne de Russie. D'ailleurs, on disait là, Murat, il s'est échappé, il est parti dans son royaume, il a abandonné Napoléon et la Grande Armée. Et c'est Eugène, le fils adoptif de Napoléon, qui a ramené les restes. Il est parti à 500-600 000, ils sont revenus à 6 000. Donc ça a été quand même un énorme désastre. Et l'une des raisons pour lesquelles justement le grand homme finissait par devenir l'ogre, vous vous souvenez de l'image de l'ogre, c'est qu'il mangeait tous les petits soldats, les petits Français.
La dévorante conscription.
C'est exactement ce qu'on disait, la dévorante conscription, parce que chaque année il lui en fallait un peu plus, on n'arrivait plus. Et du coup, à ce moment-là, c'est devenu un état franchement policier, parce qu'on avait ce qu'on appelait les colonnes mobiles de la gendarmerie, qui parcouraient la France en tous sens, qui levaient les gens, qui punissaient les familles, qui établissaient des soldats dans les maisons dont on n'avait pas pu attraper les enfants, les jeunes se mutilaient, les mamans pleuraient. Il faut bien voir qu'à la fin, c'était terrible. Et quand Bacérès, qui était le numéro 2 du régime, quand Napoléon lui disait « il me faut 100 000 hommes », il disait « il me faut 50 000 hommes », « il me faut 100 000 hommes », il disait « ben, tout ce que je peux faire, c'est 30 000 ». Et parce que Napoléon avait perdu tout sens des réalités à ce moment-là.
Parce que ce qui vous intéresse, vous le verrez en Grimbert, c'est la question de l'unification de la France. Est-ce que Napoléon a joué un rôle important dans l'unification de la France? On nous dit oui, la pyramide se constitue, tout descend en cascade. Mais dans le cas de la conscription, les populations se replient sur leurs archaïsmes provinciaux parce qu'elles cherchent à protéger leurs enfants.
Absolument, c'est ça qui s'est passé. Et donc il y a une crise, et d'ailleurs on le sent bien, il y a une crise de la société française qui est très grave à partir de 1812, 1813, 1814, qui est extrêmement grave, qui tient à ça, qui tient aussi à une crise probablement de la conscience morale d'un certain nombre de gens, qui tient aussi au fait que beaucoup de gens, il faut aller pas être très malin, même dans l'opinion, la grande opinion publique, enfin la grande opinion publique, il n'y a pas encore une très grande opinion publique, mais dans la grande opinion publique de l'époque, les gens savent déjà que c'est fichu, il faut bien voir ça. À partir de la retraite de Russie, les gens savent que c'est fichu. Et en tout cas, les élites, elles, le savent. Oui, donc la société se désagrège un peu.
Vous parlez de la société française, là, mais si on passe au Grand Empire, il y a le Grand Empire qui continue à exister au début de 1813. Patrick Guénifet, autre grand historien de Napoléon, la société des pays occupés par Napoléon est sortie plus libérale et plus modernisée des efforts napoléoniens. Le Grand Empire, c'est une force.
Enfin, oui et non. Oui et non, parce que
vous
il faut bien voir.
Toujours oui et non.
Oui, parce que je suis pas entièrement d'accord. Bien sûr, il y a des éléments qui venaient d'ailleurs au départ de la Révolution française. Il y a des éléments de modernisation. Il y a des incontestablement, mais il faut voir aussi ce que c'est. C'est le Grand Empire, c'est de l'occupation française dans des pays étrangers. C'est le pillage, c'est la conscription, c'est les impôts. Et je peux vous dire que l'Allemagne, c'est pas un hasard, c'est au dernier moment, l'Allemagne qui était quand même occupée par Napoléon, s'est rebellée. Il faut voir, par exemple, vous parlez du Grand Empire, un exemple qui est très intéressant, c'est celui des Pays-Bas. Le frère de Napoléon, l'un des frères de Napoléon, Louis, avait été nommé, vous savez qu'il nommait tous ses frères, sœurs à la tête de ses royaumes. Il en a d'ailleurs eu que des soucis et pas beaucoup d'avantages, peu importe. Mais en Hollande, ben, il met Louis, le roi de Hollande, et il lui dit, eh ben, les intérêts que tu défends, c'est les miens, c'est pas ceux des Hollandais. Mais ce pauvre roi de Hollande qui voit qu'avec le blocus, le pays qui est un pays commerçant finit par décliner complètement, essaye de contrer Napoléon. Et à ce moment-là, les choses vont tellement mal que lui-même abandonne son royaume et fuit à l'étranger.
Si Napoléon avait gagné la confiance des peuples qu'il avait soumis, voilà, les choses se seraient mieux passées.
Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas gagner la conscience des peuples parce qu'il ne s'intéresse pas fondamentalement au peuple. Et il a cette utopie, et là c'est l'utopie révolutionnaire cette fois-ci. Parce qu'il y a à la fois, c'est pour bien voir qu'il avait, on disait, il avait à la fois l'imagination révolutionnaire et l'instinct monarchique. Donc il faut bien voir les deux. Mais l'imagination révolutionnaire, il pensait effectivement qu'en arrivant avec l'égalité républicaine, le code civil, un nouveau rapport avec l'Église catholique, tout ça ferait que tous ces gens l'adoreraient parce qu'au fond, il apportait la modernité. C'est un peu ce que dit Guénifet. Seulement, il y a tout l'autre côté qui fait que, n'oublions pas, c'est que au moment où Napoléon va perdre et où l'échec définitif, Jean XIV, parce qu'au fond, Waterloo, ça n'est qu'un appendice, enfin, les choses sont jouées en 1814, eh bien, il faut bien voir qu'à ce moment-là, ce qui va rester dans beaucoup de pays, c'est un sentiment anti-français extrêmement important.
Des nationalismes de réaction.
Et des nationalistes de réaction. Un des grands historiens d'Europe de l'Est, Bibaud, disait ce qu'il appelait la folie prussienne, hein, l'hystérie prussienne est née à Iéna. Et Iéna, c'est la grande défaite prussienne contre l'Empire.
Alors moi, je m'arrête un instant, si vous le voulez bien, à 1813, avant de passer à 14. L'armée russe, remarquablement commandée par Alexandre, qui était lui aussi un stratège, décide de poursuivre l'avantage après avoir expulsé Napoléon de son pays. Elle fait bloc avec l'Angleterre, que le blocus continental n'a pas ruiné. Napoléon espère encore la neutralité de l'Empire d'Autriche. Son beau-père est empereur d'Autriche depuis qu'il a épousé Marie-Louise, et à Dresde, encore occupée, en juin 1813, il rencontre le ministre des Affaires étrangères autrichien, Metternich.
Metternich, combien l'Angleterre vous a-t-elle donné pour vous décider à jouer ce rôle contre moi? La paix et la guerre sont entre les mains de votre majesté. Le sort de l'Europe, son avenir et le vôtre, tout cela dépend de vous seul. Entre les aspirations de l'Europe et vos désirs, il y a un abîme. Aujourd'hui, vous pouvez encore conclure la paix. Demain, il serait peut-être trop tard. Vos traités de paix n'ont jamais été que des armistices. Les revers comme les succès vous poussent à la guerre. Le moment est venu où vous allez vous jeter réciproquement le gant, l'Europe et vous. Vous le ramassez, vous et l'Europe. Mais ce ne sera pas l'Europe qui succombera dans la lutte. La fortune peut vous trahir comme elle l'a fait en 1812. Et quand cette armée d'adolescents que vous appelez sous les armes aura disparu, que ferez-vous? Vous voulez immoler 1 million d'hommes. Vous êtes perdu, sire. J'en avais le pressentiment en venant ici. Maintenant que je m'en vais, j'en ai la certitude.
La Tribune de l'Histoire, France Inter, dès 1959. Et dès octobre, les Autrichiens, associés aux Prussiens, aux Russes, n'oublions pas les Suédois de Bernadotte, battent, c'est la bataille des nations à Leipzig, les Français qui vont se replier en deçà du Rhin. Et bientôt la France, 1814, sera elle-même envahie. Sire, vous êtes perdu.
Voilà, c'est effectivement, c'est que Napoléon n'a pas pu s'arrêter, parce que c'était pas dans ce tempérament, c'était un aventurier conquérant. Il ne s'est pas arrêté, et alors qu'il pensait à peu près tenir l'Autriche dans son camp, eh bien Metternich s'était entendu, avec Talleyrand, faut pas oublier, avec les Russes, avec les Prussiens, et ce coup-ci voulait vraiment liquider, on peut le dire, Napoléon. Et ce que quand Bonaparte a compris ça, il s'est dit qu'il n'y avait que deux choses à faire, soit il négociait, il n'a pas voulu.
Il ne sait pas être diplomate.
Il ne savait pas être diplomate. Il n'a pas de diplomatie. Il veut pas reculer. Certains critiques disent, au fond, c'est un parvenu. Il ne peut pas reculer. C'est un aventurier. Il ne peut pas reculer. Et donc, il le sait lui-même. Il dit non. Il préfère être battu. Mais il ne reculera pas. Il ne cédera pas. Il dit à Metternich, à cette fameuse entretien de Dresde qui a lieu avant Leipzig, il lui dit, je ne céderai jamais un pouce de terrain. C'est Napoléon. Ben, quand on ne peut pas faire de diplomatie, il faut gagner tout le temps. Si on perd, ben, tout est fini.
Napoléon Bonaparte, Le Noir Génie, édition du CNRS. Dites-moi, c'est digne d'une charge de la Grande Armée. C'est dévastateur, votre livre.
Tout à fait, tout à fait.
Merci à vous, Gérard Grimbert. Vous avez conscience que votre cause est perdue?
Oui, je crois franchement que oui, par rapport aux dizaines de milliers de livres et d'articles sur Napoléon.
Et puis génération après génération, il y a de nouvelles raisons d'aimer Napoléon. Et puis quand c'est pas les Français qui aiment Napoléon, ce sont maintenant les Chinois. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Jean-Philippe Jeanne, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin, Lola Jordan et Ilinka Negulesco. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez d'apaisant, Mathieu Vidard?
On va prendre des plantes ou des petites tisanes, par exemple, entre autres.
Vous savez que Napoléon a arraché un brin d'herbe à Waterloo et qu'il le mâchait pendant qu'il donnait des ordres qu'on n'arrivait pas à comprendre.
Et on a plein d'autres plantes à vous proposer pour vous soigner, justement, Jean.
Les plantes qui nous soignent.